Bienvenue à toutes et à tous à cette cyberscopie dédiée donc à l'ouvrage de Sébastien Dupont, seul parmi les autres. Alors je voudrais commencer d'abord par des remerciements. Remerciements à la librairie Lipsy, à Bernard Debaille et à toute son équipe. Remerciements à Alain Casanova, notre cyclope préféré, qui est toujours d'une fidélité incroyable fil des années pour mémoriser les événements scientifiques marquants en pédopsychiatrie, et remercier très chaleureusement Philippe Jamet d'être là parmi nous. Je trouve que c'est très émouvant d'avoir un jeune retraité plein d'avenir et un jeune psychologue,
un vieil enfant,
tout à fait sympathique et lui aussi très, très prometteur. Il y a quelque chose là, je trouve, de générationnel qui est enthousiasmant, parce que je crois que les valeurs qui vous réunissent autour de la clinique sont des valeurs fondamentales, et d'abord et surtout humaines probablement, avant de rentrer dans des débats théoriques. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel que nous sommes nombreux à partager ce soir. Alors, vous dire quelques mots en préambule, je suis un directeur de collection heureux parce que c'est ce soir le 27e ouvrage de la collection La vie de l'enfant, depuis que mon maître Michel Soulet m'a transmis le flambeau en 1998. Et c'est vrai que depuis lors, on a, avec une bonne bande de papivores, défendu les couleurs de cette collection, où finalement il s'agit là aussi d'ouvrir un espace d'épistémologie ouverte, où on puisse convoquer ce qu'il en est de la psychanalyse, mais aussi probablement ce qu'il en est de ses mises à l'épreuve, de ces disciplines connexes qui viennent en débat avec elle et qui viennent sans doute lui permettre de rester vivante au troisième millénaire. Mais il s'agit véritablement d'un espace de dialogue pour faire en sorte qu'on ne reste pas engoncé dans des refrains poussiéreux qu'on répète à l'envi et qui perdent de leur substance au fil du temps. Mais il s'agit véritablement d'un laboratoire où des jeunes auteurs et des moins jeunes s'essaye à effectivement proposer des pistes pour relever les défis de la clinique du troisième millénaire. Alors, je suis aussi un directeur de collection serein ce soir parce que, effectivement, c'est un tout jeune psychologue qui est là et qui a fait je suis évidemment partial, mais je l'assume, un remarquable ouvrage qui a débuté par une thèse. Et là, je dois dire que c'est rarissime que des bonnes thèses finissent en bon ouvrage. C'est de ma relativement jeune carrière d'universitaire, je dois dire que c'est la deuxième ou troisième fois que je le vois. Parce que c'est vrai que, bien souvent, une bonne thèse qui répond aux fourches codines de l'orthodoxie universitaire, c'est un texte qui se retrouve souvent en tension avec ce que sont les ingrédients d'un bon ouvrage. Et le travail de métamorphose, je trouve, Sébastien, que vous l'avez accompli avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'efficacité. Et ça, c'est un premier point que je voulais souligner parce que c'est vraiment rare ici. Alors, dire aussi que vous êtes d'abord et surtout clinicien. Parce que c'est vrai que, on peut le dire, dans une librairie, il y a énormément d'ouvrages qui sont saturés de théories, mais dont on ne perçoit pas véritablement la légitimité clinique. Hein, et on a l'impression, assez souvent comme ça, d'une chorégraphie quelquefois très, très pertinente, mais assez sophistique et quelque peu intellectualiste, hein, comme on dit en psychanalyse, pour pointer ce mécanisme de défense où on est dans une altitude qui finalement refroidit ce qu'il en est de la confrontation avec l'humain et avec la clinique. Avec vous, on n'a pas ce problème-là. On est bien enraciné dans la clinique et votre ouvrage est vraiment truffé, comme on pourrait dire avec des périgourdins que nous sommes, Philippe et moi, est vraiment truffé de cliniques. Et votre théorie, du coup, prend toute sa force et sa conviction, parce que, en effet, elle est authentifiée par votre pratique de psychologue. Alors, vous êtes bien sûr dans la psychopathologie psychanalytique, mais aussi bien dans l'esprit de cette collection, où votre curiosité pour les sciences cognitives, pour les théories de l'attachement, et puis bien d'autres secteurs dont on va sans doute parler ce soir, eh bien, toutes ces matières connexes viennent vraiment enrichir votre propos, et ça, ce n'est pas une des moindres qualités de votre livre. Alors, il y en a une autre aussi que j'aimerais souligner, c'est votre goût pour le cinéma. Et vous avez écrit là-dessus, c'est un vrai objet de recherche pour vous. Et je dois dire que ça vient donner une texture particulière à ce livre, parce qu'il y a quand même quelques morceaux de bravoure autour de votre thématique, illustrés par des films, qui ont été pour moi tout de suite à l'œuvre dans ma conviction en lisant votre thèse qu'il y avait de quoi faire un livre. C'est-à-dire que c'est notamment dans ces passages-là que je me suis dit, bon, très bien, cette thèse va avoir mention avec les félicitations du jury, c'est une évidence, mais il y a aussi quelque chose qui dépasse le projet de la thèse, et il y a là ce qu'il faut pour que ça fasse un bon livre, et que probablement aussi à travers mes propos, on sent que vous avez un savoir-faire d'écrivain, hein, qui va probablement se sculpter au fil des années, et votre goût pour l'esthétique du cinéma est tout à fait convaincante aussi dans ce. Alors maintenant, votre thématique, ben je dirais que votre thématique, comme le dit Roussillon dans sa volte-face, elle fait partie de ces conceptualisations de Winnicott qui ont été aussi magistral que peut-être non développé par lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'il en a fait un article, cette capacité d'être seul en présence de l'adulte. Et puis, il en est resté là. Et de cette intuition géniale, il n'a, lui, fait rien d'autre que vendre la mèche, si je peux dire. Mmh. Et ce sont ses héritiers, comme avec un certain nombre de ses propositions, qui ont vraiment donné tout l'écho que méritait cette remarquable observation clinique, et puis cette poutre maîtresse finalement de ce qu'on pourrait qualifier, après Margaret Mahler, donnée du processus complexe de séparation individuation. Hein, c'est vrai que cette capacité d'être seul en présence de l'autre représente un espace tout à fait fondamental. Alors, ce que dit aussi Roussillon après avoir lu votre livre, c'est que cette capacité d'être seul en présence de l'objet, c'est cette capacité d'être seul avec ses pulsions, hein, c'est-à-dire avec toute la vie psychique, intra-psychique, hein, en présence de l'autre. Donc, on voit bien là se dessiner, je crois, un débat qui est au cœur des cliniques de l'extrême, tel que Philippe Lejamais les a pratiquées pendant des décennies, où effectivement, pour le dire de façon plaisante, tout ce qui se passe dans le ministère des Affaires intérieures et tout ce qui se passe dans le ministère des Affaires étrangères est en permanence en résonance croisée, et qu'on ne comprend rien à rien si on n'est pas aussi attentif à l'un qu'à l'autre, et que finalement, c'est peut-être l'histoire des idées qui ont séparé ces deux ministères, plus que l'interaction humaine qui, elle, est en permanence dans une résonance double du dedans de soi et de l'attention à l'autre. On était l'autre jour dans une discussion justement avec René Roussillon, où on se retrouvait très tranquillement avec l'envie, par exemple, de faire la peau au narcissisme primaire. Parce que finalement, le narcissisme primaire, bah, il faudrait le repenser avec l'idée que l'autre est déjà présent au fin fond du narcissisme. Alors, c'est compliqué de repenser le narcissisme avec l'autre qui serait consubstantiel même au narcissisme, et peut-être même surtout au narcissisme. En tout cas, on est vraiment au cœur, je crois, d'une problématique de l'intersubjectivité avec ce travail, et donc au cœur de l'actualité. Alors, un dernier point avant de vous passer la parole, je voudrais juste souligner le paradoxe qu'il y a entre l'idéologie du moment, avec ce goût forcené pour la simultanéité, le tout tout de suite, et puis cette phobie générale pour la distance. Hein. On est là en permanence, en réseaux sociaux, en SMS, en mail, en connexion permanente. Et vous, vous arrivez avec votre jeunesse clinique et prometteuse, et vous vous interrogez là-dessus. Alors, je pense que vous allez avoir une carrière bien remplie, parce que vous prenez les choses, je crois, de manière frontale par rapport à quelque chose qui est très inquiétant dans l'idéologie aujourd'hui. Et je suis sûr que Philippe Jamais, tout à l'heure, aura des choses intéressantes à nous dire. Donc, je vous passe la parole pour une présentation de votre ouvrage, et ensuite, Philippe Jamais dialoguera avec vous.
Merci Sylvain. Je vais d'abord commencer par des remerciements. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc, je voudrais déjà remercier le professeur Serge Sourd qui a dirigé la thèse qui est à l'origine de ce livre. Et je voudrais vraiment en profiter pour vous remercier publiquement, Sylvain Missonnier, parce que donc, c'est au cours du pot de thèse que vous m'avez fait cette proposition de faire la métabolisation de cette thèse en livre. Et vraiment, je peux témoigner que vous m'avez témoigné une grande confiance. Enfin, vous avez fait preuve d'une grande générosité. Et vous avez dit avant qu'il était rare de pouvoir transformer une thèse en livre. Mais pour moi, vous en êtes vraiment la condition et l'instigateur. Et je voudrais vraiment témoigner d'à quel point vous êtes généreux, vous faites confiance à des jeunes, et pour moi vous êtes le modèle de la base de sécurité de l'attachement. C'est que vous nous soutenez à travailler, mais pas pour nous regarder le nombril ou pour être autour de vous, mais pour nous dépasser, aller ailleurs, nous intéresser au reste. Et vraiment, je pense que je ne suis pas le seul à le penser, donc je vous en remercie. Alors, je voudrais aussi remercier le professeur Jemet, qui vraiment me fait un grand honneur d'être mon discutant. Pour te dire, c'est même un petit peu impressionnant, parce que pour un jeune psychologue comme moi, vous êtes une référence, donc je suis un petit peu intimidé à être discuté par vous, mais et surtout sur ce thème, parce que il me semble des écrits de vous que je connais que la solitude est une question transversale qui est un petit peu en filigrane d'une grande partie, je crois, de vos écrits, et qui est très importante, je pense, pour nous les jeunes psychologues, parce qu'elle nous dit beaucoup sur la psychopathologie d'aujourd'hui, où ces questions de la solitude, du manque de confiance, de la difficulté à nouer des liens, à être en situation de dépendance, participent de façon centrale. Et je remercie bien sûr la librairie des psys qui nous accueille. Alors évidemment, c'est très difficile de présenter comme ça ce livre qui fait 300 pages, et comme je suis très obsessionnel, je voudrais tout dire ou rien dire, donc c'est difficile. Donc surtout que je me suis intéressé aussi bien au développement de l'enfant et de l'adolescent à tous les âges que aux différentes psychopathologies, donc chaque case pourrait demander une présentation en soi. Alors j'ai plutôt choisi de remettre un petit peu en place pour vous les cartes de la problématique de la solitude, de la capacité d'être seul, de la capacité d'être seul en présence. Et je pense que chaque clinicien que vous êtes certainement pourra lui-même faire les ramifications avec la clinique, avec le développement de l'enfant, etc. Alors, cette problématique de la solitude, elle est passionnante et complexe et passionnante parce que extrêmement paradoxale. D'ailleurs, le titre lui-même du livre est paradoxal, « Seul parmi les autres ». Et c'est vrai que c'est une problématique, quel que soit le bout par lequel on la prend, on rencontre un paradoxe. Et la plupart de ces paradoxes sont déjà présentés par Winnicott lui-même dans ce très court article, je crois que ça fait 8 pages dans la version française, où il y a un nombre de perles non développées, comme vous dites. Alors, je vais essayer de vous présenter cette problématique et les paradoxes qui la travaillent, selon 3 points de paradoxe. Le premier point, je vais tout dire un peu schématiquement, mais ça nous permettra peut-être de discuter. Le premier point, c'est le fait que la solitude s'éprouve souvent dans la présence d'autrui. Alors, pour prendre un exemple très, très simple de ça, c'est la dépression chez l'adulte ou chez l'adolescent. Comme vous savez, les déprimés sont ceux qui font le plus part de sentiments de solitude. Et quand on les écoute, ce qu'ils décrivent, c'est que les moments où leur sentiment de solitude est le plus aigu, c'est très souvent les moments où ils sont avec d'autres, où ils sont entourés, ils sont à un repas de famille, ils sont à leur travail avec leurs collègues, dans le cas d'adolescents, dans le groupe d'adolescents, dans la récréation, à une fête, etc., avec leurs amis. Et au fond, leur sentiment là, est le plus aigu, et se traduit par des sentiments tels que je ne suis pas écouté, on ne me regarde pas, on ne s'intéresse pas à moi, j'arrive pas à prendre la parole, j'ai pas ma place, j'ai l'impression de ne pas en être, etc., etc. Et là où le paradoxe grossit, c'est quand ces adolescents ou ces adultes finissent par nous expliquer que pour se protéger de leur sentiment de solitude, ils ont tendance à rechercher l'isolement réel. Et que dans la solitude réelle, seuls dans leur chambre, seuls chez eux, etc., ils se sentent finalement moins seuls. Et on voit d'ailleurs comment peut très bien s'engager le cercle vicieux de la solitude, où le sentiment de solitude entraîne l'isolement. Plus on est isolé, plus quand on va vers les autres, on a l'impression de ne pas trouver sa place, plus on cherche à s'isoler, etc., etc. Donc, la proximité, la présence, peut souvent susciter le sentiment de solitude. Alors, tout de suite, je peux faire une petite parenthèse clinique sur la difficulté que ça représente, de soigner ces personnes qui souffrent de solitude, adolescents ou adultes, notamment par les entretiens, puisque les entretiens, c'est de la proximité, c'est de la présence. Donc ça suscite ce sentiment de solitude et de ne pas réussir à parler, à s'exprimer, à être écouté, à être considéré, etc. Et donc c'est une question qui peut parfois argumenter dans le sens des dispositifs de soins à distance. Je sais que Sylvain Missonnier parfois fait des plaidoyers pour la possibilité de mettre en place des réseaux d'aide à distance, des relations de soins à distance, par internet, par le téléphone. Et on sait combien notamment des numéros verts comme SOS Amitié ou Fil Santé Jeune sont très pertinents pour une certaine partie de la population qui fuit la proximité, qui fuit la présence et qui ne peut se laisser aider que à distance par ce lien médiatisé par le téléphone ou par internet. Ces services qui finalement redonnent au sujet le sentiment qu'autrui est accessible, autrui se préoccupe de soi, mais en évitant l'écueil de la présence, de la proximité. Alors, pour faire la transition avec la capacité d'être seul en présence de Winnicott, ce qui au fond est le coup de génie de l'article de Winnicott, c'est de nous apporter ce lien, eh bien, puisque très souvent la solitude se ressent en présence d'autrui, c'est là où elle se ressent le plus vivement, eh bien c'est certainement en présence d'autrui aussi qu'elle se découvre, qu'elle s'élabore et qu'elle s'apprivoise. Et donc c'est finalement ce qu'a décrit Winnicott, notamment chez le tout petit enfant ou chez le bébé, c'est cette idée d'après Winnicott que c'est en présence de la mère que le bébé est à même, rassuré par cette présence qu'il connaît, qui le sécurise, est à même de se défaire de la captation par l'objet et se retourner sur lui-même, s'autonomiser, se sentir séparé et se séparer petit à petit. Au fond, ce que nous dit Winnicott, c'est que le sujet n'attend pas de perdre l'objet pour s'en séparer. Il s'en sépare en sa présence. Et ce qui est très intéressant avec cet article de Winnicott, avec les quelques perles qu'il contient, donc ça date de 1958, c'est que quelques 11 ans avant le premier volume des travaux de Bowlby, il y a déjà les idées maîtresses de la théorie de l'attachement. Et puisqu'au fond, la psychologie de l'attachement, ça repose sur la même idée. D'ailleurs, Peter Fonagy, dans le livre de votre collection, en parlait. L'idée que c'est dans la présence réelle de la figure d'attachement, c'est de la base de sécurité, que le bébé, le petit enfant, est le plus à même de s'autonomiser et d'explorer le monde, aussi bien externe que interne. Et que donc le lien, la présence, n'est pas antinomyme d'autonomie, c'est le contraire. Et que chez le petit enfant qui a noué un bon lien d'attachement avec les personnes qui s'occupent de lui, ce dont on finit par observer, c'est la confirmation de ce qu'explique Winnicott, c'est que lorsqu'il est avec sa figure d'attachement, il explore beaucoup plus, il s'autonomise beaucoup plus que lorsqu'il est vraiment seul, où il a tendance à se mettre dans un état d'éveil réduit, à s'endormir, etc. Puisqu'il sent intuitivement que la sécurité maximale n'est pas garantie. Et finalement, c'est les psychologues de l'attachement qui ont comme ça développé ce postulat clinique, que donc on ne peut pas apprendre à être seul tout seul, qu'il y a besoin de la présence rassurante et sécurisante d'autrui. Et ils ont bien décrit comment l'enfant se sécurise d'abord par la proximité physique de ses figures d'attachement, et puis petit à petit, seule la disponibilité lui suffit pour se sentir rassuré, et progressivement, seule l'accessibilité lui suffit pour être rassuré, et petit à petit, il intériorise comme ça ces bons objets, ou cette base interne de sécurité, et finalement, si le lien est sécure, il finit par, ce que décrivent les psychologues de l'attachement, généraliser cette confiance dans ces figures d'attachement, cette accessibilité d'autrui, et d'aller dans la vie en se disant, a priori, autrui m'aidera, me soutiendra, me sécurisera. Il y a une confiance donnée a priori dans le monde extérieur qui permet de vivre d'une façon autonome. Alors, un deuxième paradoxe, c'est au fond le paradoxe opposé. Le fait que dans la solitude réelle, d'un point de vue psychique, très souvent, l'objet psychique se fait omniprésent. Alors, premier exemple, c'est ce que décrit Freud à propos du deuil, ou de la mélancolie, mais surtout du deuil. Hein. L'ombre de l'objet tombe sur le moi. Ça veut bien dire que dans la séparation, dans la perte, dans la solitude réelle, on peut être envahi comme ça par autrui. C'est ce que Melanie Klein aussi décrivait de façon plus fondamentale dans les premiers âges de la vie, avec son idée de mauvaise mère. Melanie Klein, au fond, disait « Il n'y a pas d'absence pour le bébé, il n'y a que de la présence. C'est soit la présence de ma bonne mère, soit quand elle n'est pas là, le bébé vit ça, non pas comme une absence, mais comme la présence d'une mauvaise mère qui le fait attendre, qui le fait souffrir d'avoir faim, de ne pas être rassasié, d'être désorganisé, etc. Donc il n'y a pas d'absence pour le bébé. Il n'y a que de la présence d'objets bons au mauvais. Et les objets mauvais sont envahissants lorsque l'on n'a pas encore intériorisé un bon objet protecteur. C'est ce que nous montrent aussi d'autres phénomènes chez l'enfant ou le petit enfant. Au fond, l'enfant, il est, comme disait Winnicott, l'enfant seul n'existe pas, mais c'est même au-delà de peut-être de ce qu'il voulait dire. C'est le fait que l'enfant, psychiquement, il est souvent seul qu'au regard de l'observateur extérieur. Et lui-même, il est dans un monde interne, souvent très, très omniprésent. C'est le cas dans les angoisses nocturnes ou la peur du noir. Si le petit enfant ne veut pas qu'on le laisse seul pour dormir ou lorsqu'il a peur du noir, ce n'est pas seulement par peur d'être seul, mais par peur d'être envahi par ces mauvais objets internes qu'il projette dans le noir ou sur les objets du monde non humain, par son animisme, etc. Et donc, si on rassemble ces deux premiers paradoxes, Winnicott arrive à la conclusion que, au fond, être capable d'être seul, c'est toujours être capable d'être avec, de tolérer la présence réelle ou la présence d'objets internes. Et c'est pour ça que Winnicott finalement arrivait à cette conclusion, là encore paradoxale, que la condition principale à l'élaboration de la capacité d'être seul, c'est l'élaboration des angoisses de persécution. Et au fond, il finissait. Au fond, angoisse de séparation et angoisse de persécution ne deviennent plus qu'une seule et même type d'angoisse. Alors. Et c'est ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette question de la dépendance dont Philippe Jemet nous a appris tant de choses. Au fond, la petite enfance, c'est et l'autonomisation de la petite enfance, c'est savoir accepter d'être dépendant, accepter d'être comme ça, de vivre avec un autre envahissant. Parce qu'on en est dépendant et que on est avec un autre dont on finit par s'apercevoir qu'il a un droit de vie et de mort sur nous. Entièrement dépendant de lui, on est l'otage d'autrui et pourtant est-ce qu'on va pouvoir lui faire confiance? Et ça nous amène d'ailleurs à d'autres paradoxes qui est que très souvent, quand on est seul ou trop abandonné, on se sent envahi par autrui et on se sent aussi persécuté par autrui. Et les adolescents, souvent, c'est ça, pendant les périodes de dépression adolescente ou de sentiments de détresse adolescente, ce qu'ils nous disent, c'est au contraire, mais autrui me persécute, autrui est totalitaire, autrui est dictatorial envers moi. Alors, au fond, ce que finalement Winnicott a décrit, c'est l'idée que pour rejoindre la solitude en présence et la solitude réelle, au fond, ce qu'a décrit Winnicott, c'est que la capacité d'être seul en présence d'autrui, avec tout ce qu'il représente, cet autrui si important, notamment de la petite enfance, c'est une condition pour pouvoir supporter la solitude réelle, les séparations réelles. Et c'est une confirmation faite par l'observation chez les psychologues de l'attachement. L'enfant qui ne sera pas déstructuré par l'entrée à la maternelle, par exemple, ou au jardin d'enfants, ou à la crèche, c'est celui qui, lorsqu'il est avec ses parents, ses figures d'attachement à la maison, a déjà tendance à s'autonomiser par lui-même, à jouer tout seul, à ne pas toujours demander l'attention de ses parents, à ne pas toujours avoir besoin de leur attention, mais déjà à se séparer, à jouer tout seul, à se crapahuter dans la pièce d'à côté, etc. Alors, une autre manière de rendre cette notion de capacité d'être seul en présence plus intelligible, c'est de la rapporter à une autre conception psychanalytique. Plus il y a des gens qui montrent une capacité d'être seul en présence extraordinaire. À une autre notion psychanalytique classique, où le psychanalyste dit toujours, au fond, pour supporter la solitude réelle, il faut avoir intériorisé l'objet et pouvoir l'évoquer, faire vivre l'objet en soi. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, si on le résume en quelques mots, c'est la capacité d'être réellement seul, c'est la capacité d'être avec l'objet en son absence. Ça, c'est classique. Et au fond, il suffit de retourner les termes pour donner un sens facile d'accès à la capacité d'être seul en présence de Winnicott, qui au fond correspond à la capacité d'être sans l'objet en sa présence. Alors, le troisième paradoxe de Winnicott, c'est cette idée que l'être seul est toujours accompagné. Donc il écrit, l'état de solitude est un état qui, paradoxalement, implique toujours la présence de quelqu'un d'autre. Et au fond, ce qu'il finit par nous expliquer, c'est que il faut être toujours au moins deux pour éprouver la solitude. Il faut toujours qu'il y ait un autrui envers lequel on a une attente, un sentiment de manque, un mouvement envers un quelqu'un, fantasmatique ou réel, d'ailleurs. Et c'est ce qui me permet de donner une définition insuffisante mais paradigmatique du sentiment de solitude, qui est le sentiment que autrui, présent ou non, est inaccessible. Alors de dire qu'il faut toujours être au moins deux pour se sentir seul, ça paraît comme ça très simpliste, mais c'est quand même intéressant à considérer si on s'aperçoit que dans certaines configurations psychopathologiques, certains enfants tuent le problème à la racine, et notamment dans certaines formes d'autisme psychogène, au fond ça correspond à évacuer autrui, plutôt que de me sentir seul, évacuer autrui. Ça, je ne suis plus que un, ou plutôt rien, dans une relation indifférenciée au monde, autrui n'existe plus, donc il ne peut plus me manquer, donc je ne suis plus seul. Et on retrouve la même chose dans certaines formes d'attachement insécure évitant, ou de mégalomanie, de misanthropie, où il y a toute cette manière d'évacuer autrui pour ne plus s'en sentir dépossédé et pour ne plus se sentir seul. Ce qu'on finit finalement par comprendre avec Winnicott, c'est que il faut peut-être être deux pour sentir la solitude, mais il faut être au moins trois pour l'apprivoiser. Et il faut toujours qu'il y ait ce tiers, alors c'est l'objet interne, les bons objets internes, un modèle d'autrui, comme disent les psychologues de l'attachement, ou un autrui a priori dans lequel on a confiance, pour reprendre la formule de Deleuze, ou une base de sécurité, ou un surmoi narcissisant. Cet adolescent qui se sent si seul lorsqu'il est entouré par ses amis, c'est parce que il place tout son narcissisme dans les autres, et qu'il n'a plus de narcissisme auto-alimenté, et que si on ne l'écoute pas maintenant, eh ben, c'est que personne ne l'aime, et qu'il n'a plus cette fonction interne qui dit, bon, peut-être que là maintenant on ne m'écoute pas, tant pis pour eux, mais moi je m'aime bien et je m'intéresse à moi-même, ou je peux continuer à nourrir l'idée que quelqu'un s'intéressera à moi. Alors pour finir, je voulais simplement dire quelques mots sur les questions de psychopathologie contemporaine, parce que je pense qu'on n'est jamais en dehors de l'histoire, jamais en dehors de la société. Et il me semble que on entend que les psychologues, les psychiatres qui ont du recul nous disent que la solitude, la question de la problématique de la solitude, de la séparation, des angoisses d'abandon, etc., occupe une place de plus en plus grande dans la psychopathologie de l'adulte. Ça, on le sait déjà depuis longtemps, et c'est renforcé par ce que nous décrivent les sociologues. Hein, au fond, la solitude, c'est un sentiment hyper moderne. C'est le revers de la médaille des sociétés individualistes et libérales. On a décrit chez les adultes combien ça pouvait nourrir des formes de dépression, de pathologies qui se rapprochent de plus en plus de pathologies limites plus que névrotique, où les angoisses d'abandon sont, et d'intrusion sont au devant de la scène. Et ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que ben, maintenant on rencontre les enfants de ces adultes-là, qui sont déjà dans ces problématiques de solitude de façon plus ou moins forte. Et c'est ce que j'écrivais dans l'introduction. La première solitude dont souffrent les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, c'est la solitude des adultes, par bien des aspects. Je sais que Philippe Jemet parle souvent de la désolidarisation des adultes entre eux et de la perte de consensus entre adultes. Chaque adulte est de plus en plus seul face aux enfants, que ce soit le parent, le professeur, l'enseignant. Évidemment, c'est très déstabilisant pour les enfants. Et on voit comment toute cette nouvelle psychopathologie de l'enfant, bon, on peut utiliser les termes un peu médiatiques, hyperactivité, enfant tyran, enfant roi, trouble des conduites, trouble avec opposition, etc. Très souvent, on y retrouve quand même en matrice ces questions d'incapacité d'être seul, d'incapacité d'être seul en présent, cette quête d'attention permanente, cette volonté d'emprise sur autrui, sur cet autrui, sur ces adultes qui semblent justement tellement imprévisibles, instables, dans lesquels l'enfant n'arrive pas à faire confiance. Et pour dire un tout petit mot, parce que je sais que c'est un thème cher à Philippe Jemet sur la psychopathologie, je ne peux pas repasser cette problématique par rapport à toutes les psychopathologies, mais ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, quels que soient les âges et quels que soient les types de pathologies, c'est la récurrence, chez ces cas où ils se posent des questions de solitude, des conduites masochistes comme défense contre la solitude, que ce soit masochisme moral, masochisme comportemental, les conduites autodestructrices, et tous ces appels à autrui par le biais du masochisme. Il y a quand même beaucoup d'enfants tyrans qui sont dans des tentatives pour provoquer l'emprise d'autrui sur soi, pour retrouver un sentiment d'être porté, d'être dans l'emprise de cet autrui qui paraît tellement tellement inconsistant. Je m'arrête
là. Philippe Jemet, je crois que si...
Bien, en tout cas moi aussi je voulais vous remercier de cette invitation qui me fait très 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 plaisir d'être ainsi associé à une certaine forme de transmission et quelque chose d'essentiel à la vie sur une thématique qui m'est chère en effet et avec quelqu'un que j'ai découvert, je ne vous connaissais pas et donc j'ai eu ce plaisir, cette chance de vous découvrir à partir de ce livre et je trouve que c'est rafraîchissant de voir un livre comme ça dans une perspective psychanalytique, alors seul parmi les autres, c'est-à-dire une phénoménologie des émotions. Voilà. On est dans une période quand même où voilà, je crois qu'il y a urgence à sortir de la langue de bois. Non pas que celle-ci soit fausse, mais à un moment donné, un certain nombre de notions qui, quand elles ont été découvertes, ont ouvert un champ de connaissances. Au bout d'un certain nombre d'années, ça arrive dans tous les domaines, eh bien, on ne sait plus ce que chacun y met. Bon, alors, et en même temps, ça devient, moins on sait ce qu'on y met, plus il y a de différences, plus on a peur de se désorganiser ou de perdre la cohérence. Et donc, on a des mots fétiches. Ouais, dans le domaine de la politique, ça a très, très bien marché aussi. On a des mots fétiches et il faut s'y accrocher. Hein, parce que alors, vous êtes des nôtres. C'est comme ça qu'on s'affilie, qu'on est dans une identité. À vous employer le mot objet, à vous avez la pulsion. Qu'est-ce qu'on y met? On ne veut pas trop savoir. Et il vaut mieux pas parce que c'est assez très différent. Mais voilà, on a ces mots fétiches. Bon. Moi, je trouve que c'est dangereux parce que c'est la mort qui insidieusement s'insinue comme cela. Il faut retrouver un langage vivant. Vous êtes tout jeune, vous avez le temps de réécrire un vocabulaire de psychanalyse avec d'autres où il y a une réintroduction de la phénoménologie des émotions. C'est quand même ce qu'ils font de la psychanalyse, c'est la rencontre quand même. C'est-à-dire quelque chose de basique au niveau de la vie, l'essentiel de la vie, c'est la rencontre. Une rencontre très paradoxale, puisqu'on va se parler à soi-même au travers de l'autre. Mais il faut ce détour de l'autre pour que vraiment, finalement, on arrive à se réapproprier ce qu'on pensait qu'il existait en dehors de soi et qu'on n'avait pas suffisamment. Enfin, il y a quelque chose comme ça de fondamental. Il faut retrouver les émotions. Et vous nous y invitez, ce titre est beau. Et l'intérieur de ce livre, comme l'a très bien dit Sylvain Missonnier, eh bien, c'est bien écrit, c'est agréable, ça se lit facilement. Alors, on voit bien que ça a été une thèse, donc c'est très documenté. Mais justement, on y trouve là, on a un excellent résumé de tout un ensemble de données essentielles de la psychanalyse. En même temps, c'est vivant, ça embraye sur la clinique, sur le cinéma, sur... Donc un livre agréable à lire et qui donne à penser. Donc merci de tout cela. Alors pour ouvrir la discussion, peut-être que je voudrais essayer de revenir sur cette notion du paradoxe, bon, qui m'est aussi essentielle. D'abord peut-être sur la question de la solitude. Au fond, pour moi, après 40 ans de clinique, qui était quand même la base, avec des adolescents, c'est-à-dire des choses qui sont, on voit enfin des choses, des situations qui sont en transformation. On voit sous nos yeux enfin, la problématique humaine, en particulier dans ses bases fondamentales, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va vers une créativité ou vers une destructivité, que j'ai appelé la créativité du pauvre, c'est-à-dire pas au sens économique, mais si je suis impuissant, il y a toujours quelque chose de possible, détruire. Bon. Avant de s'effondrer, avant de mourir, on peut toujours détruire. Créer, c'est aléatoire, et créer, c'est risquer la déception. Bon. C'est attendre justement la réponse de l'autre, et si on se sent très seul, eh bien on peut sortir de sa solitude justement par la destructivité. Vous parliez du masochisme en terminant, et d'ailleurs masochisme, je suis plus sûr que ce mot soit tout à fait aussi opportun là aussi, parce que l'érotisation est bien secondaire, à mon avis, elle existe, mais bien secondairement par rapport à ce qui pour moi est au fondement de la destructivité, et le masochisme est une forme de destructivité, telle qu'on le décrit, cette autodestruction, eh bien c'est paradoxalement un acte de vie, détruire pour exister. C'est-à-dire, c'est la revanche d'un narcissisme blessé. Alors, destruction physique, destruction morale, le cynisme, je ne crois plus en rien, c'est toujours des grands affectifs qui font ça, c'est jamais les indifférents. Plus rien ne m'intéresse, ouais. Même pas mal, vous dira tout d'un coup l'enfant là, avec de grosses larmes dans les yeux, ouais, même pas mal. Ouais, ça, c'est une capacité humaine, tout d'un coup, de dire ce qui pourrait me faire mal ou me décevoir, eh bien justement, ça ne me déçoit pas, ni ne me fait mal, et même je me l'inflige moi-même, voilà. Plus fort que vous. Bon. Là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il nous faudra essayer aussi de poursuivre dans cette lignée, quand même. C'est que, ce qui va compter, je crois profondément, quand tout va mal, quand on se sent seul, et on y reviendra après dans votre clinique, je pense, c'est comment, devant cette menace que laisse peser la solitude, comment exister ? Eh bien, pour exister, je crois qu'on est programmé, comme tous les vivants, pour réagir activement. Il faut réagir activement. Alors, positivement, ou si on ne peut pas, c'est toujours possible dans la destruction. Si vous demandez à des jeunes filles pourquoi elles se scarifient, elles vont finir par vous dire, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, c'est pas moi. Ça me soulage. Voilà. Alors, si vous leur dites, attendez, ça vous soulage, moi j'ai le cœur généreux, passez-moi un tuteur, je vais vous soulager, vous allez voir. Ben dis donc, ça ne va pas la tête, vous êtes malade, je porte plainte. Ah, mais voilà, réaction normale. Mais parce que c'est vous qui êtes votre propre bourreau, ça vous soulage. Et quel est ce mystère humain ? Qu'être son propre bourreau, ça nous soulage. Voilà. Et tout est comme ça, ruminé dans son coin. J'ai été déçu, je voulais être avec les autres, ils m'ont un petit peu, ils sont moqués de moi. Eh bien, je vais m'enfermer tout seul dans mon coin, je vais passer toute la journée à ruminer. Mais je suis plus fort que les autres, je peux m'en passer, c'est moi. Et je crois qu'il y a là quelque chose, un mouvement... Que vous nous montrez, qui est fondamental et pour lequel on peut aller, à mon avis, encore plus loin pour y voir les choses essentielles et qui touche ce que vous disiez dans la discussion tout à l'heure, le narcissisme primaire, vous avez eu raison, tirer à boulet dessus. Le narcissisme primaire, oui, on peut probablement... Pourquoi ? Mais parce que c'est assez simple quand même. la vie. Alors là, on pourrait reprendre un paradoxe de Winnicott, hein, quand même. C'est que ce paradoxe où il nous dit un enfant sans sa mère, ça n'existe pas. Mais c'est un être vivant sans son contexte, ça n'existe pas. Ça, depuis le premier être vivant, depuis la cellule de base. La vie, c'est l'interaction. C'est la différence avec le minéral. Et encore, il y a des combinaisons entre eux. Mais la vie ne se conçoit que dans l'interactivité. C'est-à-dire ne se construit, et là on trouve ce que vous dites, et vous terminez merveilleusement là-dessus, toute la fin, les derniers mots sur l'eau, ça se construit, oui, qu'au travers de l'autre. On ne peut pas se passer, en effet, de l'autre. Il y a cet autre paradoxe de Winnicott, c'est que ce qui permet à un enfant d'avoir l'illusion qu'il est créateur de l'objet, c'est que l'objet soit déjà là. Il a aussi. C'est grâce à la présence de l'entourage qu'on pourra avoir le sentiment qu'on en est créateur, avec une condition, la fiabilité. C'est la fiabilité de l'objet, vous l'avez bien évoqué là, dans ce qui va être l'élément qui va lui permettre justement de croire dans sa toute-puissance. C'est ça la vraie toute-puissance. Et Vidlocher l'avait bien souligné ça, à un certain moment. La vraie toute-puissance, ce n'est pas du tout la toute-puissance psychotique, le déni, ou l'enfant roi qui est un enfant apeuré, tyrannisé par ses émotions, qui est tellement peu sûr de lui-même que dès qu'on le contrarie, il se roule par terre. Il n'a aucune possibilité d'adaptation à l'enfant roi. C'est ça le drame. Il n'est pas tout puissant. C'est-à-dire, c'est pas par toute puissance qu'il fait des caprices. C'est parce que si on le contrarie, il se désorganise. Bon, d'ailleurs, quelquefois, il se roule par terre. Et puis, Donc, il est prisonnier de ses émotions. Et la vraie toute puissance, c'est que l'enfant, dont la mère s'adapte tellement bien à ses besoins, qu'il croit qu'il n'a pas besoin d'elle. Le monde est bien fait, je crie et ça s'arrange. C'est extraordinaire. On gueule et quelqu'un, toujours la même personne, assez plutôt charmante, assez bienveillante, vient vous dire t'as faim, viens, je vais te donner à manger. J'ai pas le temps, c'est. Quelle force j'ai. Sauf que nous, on sait qu'on a la contre-expertise. La contre-expérience, c'est que s'il n'y avait pas la mère, eh bien, cet enfant, qu'est-ce qu'il ferait? Pas du masochisme. Mais ce qui est à la base du masochisme, c'est qu'il se balancerait toute la journée dans son berceau, il se taperait la tête contre les bords du berceau, il s'arracherait les cheveux. Bon. Et c'est ce qui se passe aussi pour l'animal. Et à un moment donné, j'avais noté ça aussi pour la solitude, ce que vous disiez de la solitude, mais pour l'animal aussi. Dans les eaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à tourner en rond, ils vont se faire des lésions, ils vont se gratter, ils vont s'arracher, ils vont mourir de la solitude. D'ailleurs, maintenant, vous savez qu'il y a des lois dans certains pays, c'est fou la générosité qu'on a envers les inquiétudes envers les animaux. Donc, on ne peut pas adopter un hamster ou je ne sais plus quel s'il n'y a pas une paire. C'est interdit. Interdit, vous êtes punissable d'une amende très sévère. Parce qu'il ne supporte pas la solitude. Ouais. Alors, ça, c'est inscrit dans le vivant. Alors là, ça serait une remarque et un début de question, parce que je vais y venir, une question, c'est l'éthologie. Bon. Vous parliez d'attachement, c'est le grand reproche des psychanalystes plus agrippés à la façon de voir, de dire, bon, c'est pas de la psychanalyse, c'est de l'éthologie, enfin, c'est partie de l'éthologie, l'attachement. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est pas en soi. Ça aide à orienter probablement le travail de la relation à deux, quand même. Et à l'orienter. Donc, l'éthologie, je crois que ça vaudrait la peine de voir que l'animal lui-même est soumis à un certain nombre de choses que nous avons en commun, probablement aussi des défenses émotionnelles dès qu'on est menacé. Et là, je voudrais dire, vous demander, est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce qu'il y a. Le propre de la solitude. Hein, si vous avez donné toutes les nuances, c'est très bien fait, comment ça peut souvent être vécu dans les différentes psychopathologies, c'est-à-dire dans les différents modes de réponse. Mais, basiquement, la solitude, elle pose problème quand elle vous met en danger. Et alors, moi, j'ai le sentiment que c'est toute la psychopathologie. Tout ce de la psychopathologie part de quelque chose de très basique, de constant, d'une banalité extrême, d'une répétition qui en fait tout le drame, parce que c'est toujours pareil, c'est qu'on est menacé et qu'on est seul. Et qu'on se sent seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une, une aide suffisante à cette menace, c'est-à-dire à une menace sur notre territoire. Et qu'on est programmé comme notre cabot, comme notre chat, pour que s'il y a une menace sur le territoire, on réagisse par l'agressivité, par la fuite ou par l'offrande, c'est-à-dire des conduites actives qui vont en général permettre de sauver la vie. Parce que l'agresseur, on va éviter de la destruction par l'agresseur. Donc il y a là quelque chose, il me semble, de très fondamental dans cette menace, et on la voit rôder, mais pourquoi ne pas, au fond, la nommer comme ça, c'est-à-dire cette solitude, elle est un problème comme tout, si elle est une menace. Alors, on pourrait penser en termes quelle réponse on va donner à la menace, bon. Ou d'où vient la menace, ouais. D'où vient-elle, et de partir de cette situation, c'est pas tant la solitude que la situation de menace qui va déclencher des réactions actives, de réponse à la menace, par des comportements, au fond, auxquels le sujet va adhérer parce qu'il lui redonne le sentiment qu'il ne subit plus, mais qu'il devient acteur de sa vie. Et je dirais que le suicide, est pour moi un acte de vie aussi. C'est ce qui fait que le mélancolique, Dieu sait si la part biologique de la mélancolie est importante, quand il a vu comment il allait se suicider, paradoxalement, il dit, tiens, il va mieux, il est soulagé, il a l'air mieux anxieux. Oui, pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il a repris sa vie en main. Pour faire quoi? Pour se tuer. Là, il se leurre totalement. L'anorexique, si elle va mourir, c'est pas qu'elle veut mourir de faim, du tout. Et quand des parents vous disent d'arrêter cet acharnement thérapeutique, si elle veut plus vivre, c'est pas qu'elle veut pas vivre, c'est qu'elle ne se sent vivre qu'en étant comme ça, parce que là, elle redevient acteur de sa vie. Voilà un des pièges. Et je trouve que c'est là-dedans, inscrit. Alors, vous voyez, toujours, c'est toujours pareil. Quand on rencontre quelque chose qui vous renvoie à vous-même, on dit, tiens, comme c'est intéressant. Et comme ça en vaut la peine. Mais on en est là parce que ça vous rassure, ça vous conforte, ça. Bon. Et on a la faiblesse de croire que c'est important et que ça correspond à une réalité. Donc, je l'espère, c'est comme ça que ça donne sens à ma pratique. Et ça, je l'ai retrouvé, mais peut-être sans que vous osiez. Mais c'était la thèse, donc il ne fallait quand même pas prendre trop d'oïdes. Mais maintenant, d'oser aller dans cette voie, je crois qu'il y a quelque chose là, de fondamental et qui n'empêche pas du tout l'importance du lien relationnel et du poids du passé, pas du tout, mais dans d'autres termes. Et je crois que ça aiderait beaucoup aussi, ça aide beaucoup les patients à un moment où maintenant, on est dans une ère, vous en pensez, vous en parliez avec Internet, avec tout ça, où l'argument d'autorité ne marche plus. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, la solitude actuelle. Oui, elle est liée à la liberté. La liberté est anxiogène. Il faudra s'y faire. Comme la vie est anxiogène. Seul endroit où il n'y a pas d'anxiété, c'est au cimetière. Mais, alors après, c'est pas dans l'autre monde, mais enfin, au cimetière, il n'y en a pas. Mais là, la vie, elle est anxiogène. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. On ne la maîtrise pas, la vie. Et le plaisir, alors, c'est le plus terrible parce que lui, il vous échappe. Encore ce qui ne va pas, c'est on peut ruminer sans arrêt, indéfiniment, s'accrocher après. Pas qu'on soit heureux, c'est que ça vous tient. Ouais. Mais le reste, ça vous file comme ça entre les doigts. Donc, il y a cette menace permanente de ne plus avoir d'emprise. Et je crois que ce que vous dites de ces variations de la solitude, très bien, quand vous décrivez en présence, à l'absence de l'autre, comment. Vous dites aussi que dans le transfert, dans la relation transférentielle, tout d'un coup, il peut y avoir dans cette proximité quelque chose dont on sait bien que ça peut décompenser des patients. C'est que ce n'est pas tant, la solitude que la menace, tout d'un coup, que représente la possibilité de combler cette solitude par une relation. Mais alors là, on se retrouve dans le paradoxe dont vous parliez. Plus j'ai besoin de quelqu'un, plus ce besoin donne un pouvoir à l'autre sur moi. Mais qu'est-ce qui fait quand même? Alors je voudrais vous demander votre avis. Qu'est-ce qui fait quand même que c'est comme ça? Est-ce que c'est pas quand même finalement le fait que ce qui caractérise l'être humain, c'est justement qu'il est un être de paradoxe, du fait de quoi? De sa conscience réflexive. C'est le fait que nous sommes les seuls êtres vivants qui avons conscience d'avoir conscience de nous-mêmes. Et alors là, ouverture au plaisir, ouverture en effet à la créativité et donc à la destructivité, parce que les deux vont ensemble, mais à la solitude. Et au fait qu'on n'aura jamais tout, et que tout ça va nous échapper en plus, qu'on ne pourra pas. Ouais. Est-ce que là, il y a quelque chose qui me semble inhérent. Alors, on le voit en filigrane, mais là, j'aimerais avoir. Est-ce que quand je le dis, est-ce que finalement, le point commun à tout ça, la question du paradoxe humain central, est-ce que ce n'est pas ce fait que, comme tout être vivant, pour être lui, il faut qu'il échange avec l'environnement, mais lui, il est conscient de ça, et que cette conscience fait que. Il doit échanger avec l'environnement pour être lui, mais en tant qu'être conscient, il doit être différent de cet environnement. Alors comment être différent si vous êtes le clone de votre environnement? C'est toute la question de l'obéissance. Vrai paradoxe, c'est-à-dire fausse contradiction, c'est en se nourrissant qu'on deviendra soi-même, sauf que quand on a très envie de quelqu'un, et là ça rejoint le transfert, si vous avez très envie de quelqu'un, et vous avez l'impression que ce que quelqu'un vous prend la tête, comme on disait les gamins. Tu me prends la tête. Dans le milieu du travail, ça marche aussi. Hein, ça vous... Sans qu'on voit qu'on ne vous prend la tête que parce que l'autre représente quelque chose à vos yeux. Celui qui n'a pas de pouvoir à vos yeux, il ne vous prendra jamais la tête. Un pouvoir amoureux, un pouvoir hiérarchique, un pouvoir de compétence. Et c'est ça quand même qui fait envie. Alors, il me semble, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est le fil rouge? Et moi, ce que je voudrais... votre avis un peu sur ce que je viens de vous dire très rapidement. Je fais quand même avoir une petite parenthèse pour revenir au narcissisme primaire dont vous parliez, parce que ça m'a aussi titillé. C'est que, oui, justement, ce qu'on sait maintenant, c'est que le vivant est constitutif. Ce qui constitue le vivant, c'est l'interactivité. Ce n'est pas un monde clos, c'est un monde nécessairement. Et que ce clore est, comme vous l'avez bien souligné, une défense quand même par rapport à cette intrusion possible de l'autre. Et plus vous en avez besoin, et plus vous aurez une nécessité, vous pouvez avoir la nécessité de vous clore. Et là, je fais aussi une petite aparté pour vous dire qu'il y a un livre là-dessus qui vient de sortir. Alors, il ne faut peut-être pas parler d'autres livres, mais c'est... que je vous invite, que vous connaissez peut-être, qui est le livre de Damasio, le dernier, Antonio Damasio, qui avait fait l'erreur de Descartes, Spinoza avait raison, qui est un neurobiologiste extrêmement pointu, et qui vient de sortir L'autre moi-même, et où il dit que, justement... Et ça rejoint aussi votre approche. La grande erreur, il ne faut pas se leurrer, le modèle de l'ordinateur, ce n'est pas du tout un modèle de l'être humain. La grande erreur, la conscience pour lui, l'esprit, ce qui est, c'est-à-dire la conscience, et après la conscience réflexive de l'être humain, c'est parti du corps. C'est-à-dire, c'est à partir des sensations. Alors ça va justement contre le narcissisme primaire. C'est-à-dire, ce qui donne le sentiment de continuité, c'est quand même à la base des sensations d'ordre physique et cette espèce de cartographie des sensations qui commence à se jouer notamment dans le tronc cérébral, bien en deçà du lobe frontal, et auquel se superposera par la suite une seconde cartographie qui est le lobe frontal. Et la réflexivité naîtrait de cette superposition des cartographies, dont l'une peut devenir au fond l'observateur de l'autre. Et puis progressivement la conscience, le langage, etc. Mais c'est parti des sensations. Il y a là quelque chose de très fondamental et qui m'amène aussi à une question là qui est celle du sens. Bon, et qu'on voit dans tous vos cas. Alors l'anorexie, je regardais plus attentivement, monsieur. Bon, avec une très bonne observation et très vraie. Mais là aussi, on a toujours tendance à penser que tout est intentionnel. Alors le masochisme, c'est qu'on voudrait se faire souffrir, l'agressivité, on veut... Mais si on voit ça comme une réponse, au fond, les troubles les plus comportementaux, les plus symptomatiques, comme une réponse, je dirais, quasi-automatique, adaptative, à fonction adaptative, à un sentiment de débordement, et vous parlez à plusieurs reprises, même pour cette anorexie, de la peur, par exemple, là aussi, qui la déborde. Eh bien, c'est une réaction adaptative à la peur, qui redonneront l'actif et qui, dans cette activité, va faire que on va avoir tendance à y adhérer et penser que je l'ai choisi. Et ce qui fait qu'on ait des troubles psychiatriques, eh bien, c'est mes troubles du caractère, c'est mon anorexie, c'est mon alcoolisme. Vous ne dites pas c'est ma pancréatite, c'est ma fracture du col du fémur. C'est pas, vous n'avez pas le même sentiment d'appartenance. Parce que, justement, là, ce sont des comportements qui, en vous soulageant, eh bien, vous font vous sentir, vous font vous dire, mais au fond, c'est vrai, quoi. Parce que je redeviens un peu acteur, parce que j'ai le sentiment que c'est moi qui produis ça, je ne subis plus l'action de l'extérieur, eh bien, voilà, c'est à moi. Bon. Et si c'est à moi, eh bien, ça me rassure, et j'y tiens, et j'ai, en même temps que je sens bien que ça m'enferme, j'ai très peur de les perdre. Car c'est ça aussi un des mystères. Et pourquoi on a tellement peur de perdre ces troubles psychiatriques, plus ou moins. Et de se retrouver là, dans une espèce sinon de solitude, mais comment, d'abandon et de comment, d'ouverture à tout vent, comme si on devenait, on allait devenir la proie des autres. C'est ça qui et on va se cramponner à quelque chose qui en fait va vous conduire souvent au contraire de ce que vous vouliez, c'est-à-dire à vous abîmer, à vous faire du mal, voire à en mourir, alors que vous le faites pour vivre. Voyez. Il y a quelque chose là, je trouve, d'assez extraordinaire. Alors, oui, je vous demande, est-ce que vous pensez que dans tous ces cas que vous parlez, c'est le sens, au fond, ça représente quelque chose de l'ordre d'un choix, au fond, d'un choix qui ferait... qui ferait que le sujet aurait ses comportements, aurait ses symptômes. Et puis, autre question, je vais vous les redonner un peu en même temps, après pour vous laisser le choix d'en laisser tomber si ça vous... et de prendre celle qui vous intéresse. C'est de terminer un peu en vous demandant, au fond, comment, maintenant que vous êtes parti de cette base, qu'est-ce que vous... au fond, comment vous aimeriez continuer? Parce qu'il faut vous engager à continuer, quand même. Vous n'avez plus le choix, vous avez pu publier, vous avez intéressé, il faut essayer de continuer. Comment vous envisagez, au fond, quel serait l'axe? Et est-ce que vous pensez que ce que, je reviens à mon premier questionnement, est-ce que vous pensez que faire de cette question du sentiment de solitude une ligne de développement, comme vous le dites à un moment, en suivant Anna Freud, elle a parlé d'un certain nombre de lignes de développement, pourquoi pas? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, là vous l'avez écrit déjà il y a un peu de temps, donc vous avez continué à y penser, à peut-être y travailler. Est-ce que dans l'approche, par exemple, de vos patients, un peu comme je viens de le faire par rapport à la place du symptôme, est-ce que vous pensez que prendre un axe comme ça, la solitude, pourrait être une ligne de développement, c'est une ligne transversale qui vous permettrait, au fond, de donner sens par rapport à ça, au comportement de vos patients, vous situer là-dessus, être un des axes, au fond, sur lequel vous allez essayer d'intervenir, hein, parce qu'il faut choisir aussi ces axes d'attaque. Voilà, est-ce que ça vous paraîtrait quelque chose qui vous tente, ou bien vous avez maintenant des perspectives un petit peu différentes?
Je pourrais revenir sur quelque chose d'important que vous avez dit à plusieurs reprises, quand vous avez dit, vous avez rappelé un enfant seul, ça n'existe pas, quand vous avez parlé d'éthologie, etc., et que vous avez dit, beaucoup de psychanalystes refusent de faire ces analogies entre l'homme et l'animal, etc.
C'est plus que des analogies.
Oui, monsieur, de rapprocher.
Continuité.
Et à mon avis, ça dit beaucoup de l'histoire des idées et au fond de l'idéologie dans laquelle on est et de la vision abstraite de l'homme à laquelle on est arrivé. Ça, c'est, je pense que c'est issu de l'individualisme, même des Lumières, etc., ou l'individu des droits de l'homme qui serait né libre et égal, en fait, qui serait né déjà individu, qui serait né déjà... déjà autonome. Et à mon avis, si beaucoup de psychanalystes refusent de le re-rapprocher de l'animal, c'est parce qu'ils tiennent à cette figure très abstraite de l'homme, pour qui le lien, l'attachement, est la grande oubliée, au fond. Et j'ai l'impression que ces questions de lien et de dépendance, d'interdépendance, d'attachement, c'est la grande oubliée de nos sociétés en général. Est-ce que c'est tellement construit sur la fiction d'individus déjà nés autonomes et puis qui éventuellement interagissent si ça leur fait plaisir, mais pas sur l'idée que la société est là avant, le lien est là au départ, et ensuite on peut éventuellement s'autonomiser.
Oui, évidemment, ça serait pour vous. C'était là-dessus que vous terminez un peu. Et ça serait quand même pour vous le point le plus fort de ce que vous avez voulu dire.
Oui, parce que il me semble que les enfants d'aujourd'hui ou les adolescents font beaucoup les frais de cette vision-là, où on attend d'eux tellement tôt qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, décider par eux-mêmes, être responsables de leur vie, etc. En niant ces questions d'attachement, de lien, de proximité, de dépendance. Moi, j'aime bien quand vous parlez de besoin de dépendance, parce que je trouve que c'est encore plus parlant que besoin d'attachement. La dépendance, c'est très négativement perçu. On prône au contraire l'indépendance, l'autonomie. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cette psychopathologie contemporaine, avec ce que vous dites, avec les travaux de l'éthologie, avec les travaux de l'attachement, c'est qu'au fond, ça nous rappelle, à nous les hommes, que le besoin de lien, le besoin d'attachement, c'est notre premier besoin. C'est pas second, troisième, quatrième, c'est le premier besoin. Je revoyais récemment la pyramide de Maslow. Pour lui, c'est le troisième. Alors que toute la psychopathologie, l'anorexie nous montre, tant d'expériences nous montrent que, comme vous l'avez rappelé à propos des animaux, mais c'est vrai pour les bébés aussi, il y a l'expérience tristement célèbre de Frédéric II de Prusse, qui donc avait isolé tous ses bébés, ils étaient nourris, langés, mais on ne leur parlait pas et on n'avait pas d'interaction avec eux, ils sont tous morts. Donc c'est le premier besoin. Et comme vous le rappelez très justement avec l'autodestruction, si ce premier besoin n'est pas satisfait, il n'y a pas de raison de vivre. Et les autres besoins, les besoins du corps, tous les premiers besoins de Maslow, besoins physiologiques, besoins de sécurité des corps, du corps, etc., passent bien après. Et plutôt s'autodétruire que de pouvoir vivre sans le lien. Et moi, ce que je trouve intéressant et peut-être en même temps préoccupant, c'est que tout ce que vous avez décrit chez les adolescents, avec ces questions de refus de la dépendance, d'autodestruction et de déni du sentiment de détresse, du sentiment de solitude, hein, cette façon d'inverser les choses, du fait de la conscience, justement. Ce que vous décrivez, le fait que si je me sens trop seul, je vais plutôt affirmer l'inverse. Et alors, soit autosuffisance, je n'ai besoin de personne, soit paranoïa, je suis seul contre tous, soit mégalomanie, de toute façon je suis mieux que tout le monde et donc je n'ai aussi besoin de personne. Mais ce qui me semble inquiétant, c'est que ces réactions-là, on les voit chez des enfants maintenant, et des petits-enfants. Et peut-être d'ailleurs d'autant plus chez les enfants, parce que chez l'enfant qui par définition est tellement dépendant, c'est insupportable de prendre conscience de son sentiment de solitude. Donc à mon avis, ils ont encore plus tendance à avoir ces mécanismes de dénégation et de déni et de renversement en son contraire de ce sentiment-là, donc à prôner l'inverse. Et c'est d'ailleurs très préoccupant pour leur développement, parce que ça donne des enfants qui ont 5, 6, 7 ans, 8 ans, surtout les enfants de la seconde enfance, c'est peut-être lié d'ailleurs à cet âge de raison et à cette prise de conscience, qui revendiquent au effort qu'ils n'ont pas envie d'avoir des copains, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des copains. Et que si ils sont tout seuls dans la cour, c'est leur affaire. Et qu'ils sont bien contents comme ça. Et qui refusent toutes les mains tendues.
C'est un peu l'histoire du syndrome japonais, dont j'ai oublié le nom, enfin, de ces jeunes, enfin plus d'enfants, hein, des adolescents et post-adolescents, qui s'enferment complètement dans leur chambre, qui vivent dans, comme ça, dans, en vase clos, sans être dans des états de décompensation aigus, où ils n'ont pas de troubles symptomatiques. Sauf que, bon, il y a, un enfermement et au fond, ils ont construit un système relationnel qui est totalement en marge des relations habituelles.
Mmh. Et alors, pour être aussi peut-être un peu moins catastrophiste comme ça, parce que bon, la société est l'idéal de la société, est-ce qu'elle est ? On peut pas vivre en dehors. Et ce qui est intéressant de voir avec notamment les adolescents, leur rapport au virtuel, etc., c'est que au fond, c'est pas simplement une transition ou une des lubies qui leur viennent, etc. Mais c'est aussi, on peut le voir comme une manière de rentrer dans le type de lien qu'on a prévu pour eux, que la société prévoit pour eux, et que le sociologue Paul Yonet appelle la proximité éloignée. Où il explique, on a toujours très envie d'être en lien avec les autres, même dans des liens le plus authentique possible, le plus émotionnel possible. Mais par contre, ce qui est antinomique pour la société contemporaine, c'est ces questions de dépendance, d'obligation, etc. Et donc de proximité, de vivre ensemble, d'être dans le même voisinage, etc. Et donc, ce que décrit le sociologue, c'est la façon dont on construit de plus en plus de liens où volontairement on impose une distance physique dans le lien. Donc c'est ces nouveaux couples qui décident de vivre séparément, c'est ces programmes de parrainage humanitaire à distance. On se sent très solidaire avec des immigrés clandestins à Calais, mais par contre, le clochard du bas de la rue, on ne peut pas le supporter. C'est cette façon d'être en lien à distance, dans laquelle, à mon avis, s'inscrivent très naturellement les adolescents d'aujourd'hui. Et c'est pas eux qui ont inventé ces liens à distance. Est-ce que c'est pas déjà dans ce type de lien que les parents situent leurs enfants, lorsque, par exemple, ils demandent à ce que soient installées des webcams dans les crèches pour garder lien, mais par webcam interposé. Et donc, le revers de cette proximité éloignée, c'est la solitude en présence. Et même quand je suis en présence, je suis un peu ailleurs, je suis un petit peu seul. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup avec les adolescents, c'est quand ils sont en présence, ils sont toujours avec leur téléphone portable, etc., pour montrer que, oui, je suis avec toi, mais je suis un petit peu ailleurs aussi. Hein. Je suis avec un autre qui devient un petit peu abstrait, cet autre qui prime toujours sur toi qui est là.
Je me demande s'il n'y a pas là, je vais m'arrêter là, hein, mais s'il n'y a pas là quelque chose qui retourne ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire des moyens comme ça, des moyens modernes de communication à distance qui permettent justement de. Authentiquement de ne pas se sentir seul et en même temps d'éviter. Je suis frappé de voir, c'est un article assez récent, de voir qu'il y avait un certain nombre de couples, par exemple de jeunes, qui se sont mis ensemble très tôt, au moment, juste après l'adolescence, et qui n'ont pratiquement plus de rapports sexuels. Comme. C'était un cas, mais il n'y a pas du tout de pathologie, où ils cohabitent comme ça, il y avait 9 ans qu'ils n'avaient pas eu de rapport. Ils sont ensemble, ils sont considérés comme vivants en couple, mais pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir des préjugés qu'il faut absolument cohabiter pour être... Bon, mais enfin, on peut penser qu'on peut s'en passer aussi, mais il y a une adaptabilité, beaucoup plus grande qu'on ne pense. Mais je veux dire que justement, on est à la fois très adaptable, et en même temps, et les choses vont sûrement évoluer, et tout est possible mais tout n'a pas probablement les mêmes, la même valeur, les mêmes incidences. Alors c'est très difficile de savoir ce qui va être bon pour l'avenir. D'ailleurs, Damasio en parle beaucoup, il dit la plasticité du cerveau, le cerveau social, c'est-à-dire l'effet de la culture sur le fonctionnement cérébral, est énorme. On ne sait pas les conséquences que ça aura. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas, et qu'il n'y a pas de raison que le monde reste avec strictement les valeurs. Et alors, le fait, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y ait plus les mêmes valeurs communes, ce qui, quand même, à bien des égards, est une chance et une liberté beaucoup plus grande, mais renvoie effectivement à une solitude. C'est-à-dire que d'être éduqué avec le fait qu'on joue ensemble, on se lève ensemble quand à l'école, on a les mêmes rythmes, on fait des jeux en commun, on est habitué très tôt. Mais c'est il y a une forme de conditionnement. Mais le conditionnement, on n'y échappe pas. Si on n'a pas ça, et si on part sur son Facebook et on communique avec des amis, il y a une autre forme de conditionnement. Ce n'est pas parce qu'on y est seul qu'on est moins conditionné. Hein? Alors avec ses avantages, avec ses inconvénients, ce n'est pas dans le sens du pessimisme, c'est dans le sens de plus on va avoir de liberté, plus il va falloir quand même nous interroger sur les valeurs. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est pas bien? C'est plus c'est comme ça parce que c'est comme ça. Alors c'est une chance, mais c'est assez fatigant. Quoi. Alors ça, il faut s'attendre un peu. C'est assez fatigant et assez anxiogène. Alors on aura besoin de nous, de nouveaux psychiatres.
Bon, écoutez, pour prolonger ce débat passionnant, je vous propose de réagir à votre tour et de bénéficier de la présence de Philippe Jamais et de Sébastien Dupont. Je vous en prie.
De Sylvain Missonnier. De nous tous. Faut pas que ça vous attriste, hein.
Je vous en prie, allez-y.
Non mais moi j'ai éventuellement une question, qui est une question de néophyte, mais effectivement. Il y a une vraie interrogation autour de la manière dont un certain nombre de jeunes personnes, dans les adolescents, se socialisent à travers les nouvelles technologies, qui semblent quand même redéfinir un peu et la spatialité et la temporalité de la manière dont ils construisent des relations et parfois même leurs identités, avec des identités doubles. On peut être seul chez soi et dans ses relations très proches, en même temps avoir 395 amis sur Facebook. Et donc du coup, est-ce que ça, quelque part, ça réinterroge pas aussi la manière dont des jeunes individus perçoivent le sentiment de solitude? Ou finalement, ils reformulent le sentiment de solitude selon des catégories qui nous échappent un peu, en tout cas qui jouent un peu d'identité multiple. Parce que ça jette pas un peu un trouble.
Voilà. Oui, je prolongerai juste la question que je crois fort pertinente à vous deux, en rajoutant une incise d'une consultation en fin de matinée là, à Necker, avec une mère d'un enfant de 4 ans qui nous disait « Oh, combien de temps est-ce que je vais devoir attendre avant qu'il ait un téléphone portable ? Un an, deux ans ?» Cette femme nous a dit comme ça, très tranquillement, qu'elle préméditait que son enfant, les angoisses de séparation étaient massives dans la consultation, aurait un téléphone portable dans les 2 ans qui viennent. Et cet enfant avait 4 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça change la donne, ça, tout ça?
Moi, il me semble que tous ces outils sont pas des causes, mais plutôt des moyens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils participent à une redéfinition, comme tu as dit, de l'identité et du rapport à autrui. Et effectivement, à mon avis, beaucoup de jeunes cherchent beaucoup de choses via ces médias, notamment via les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et notamment leur sentiment tout simplement d'exister aux yeux des autres, qui est le rempart de la solitude. Et là encore, c'est cet aspect hyper, hyper moderne du sentiment de solitude. Dans les sociétés traditionnelles, on ressent beaucoup de choses, on est frustré, on est enfermé dans des carcans, dans des rôles sociaux, etc. Mais par contre, on ne se sent pas seul. on se sent exister pour les autres. Alors on a une identité un petit peu fermée, déjà souvent un peu préfabriquée, mais par contre tout le monde la reconnaît et tout, on existe aux yeux de tout le monde. Et notre voisinage, le village, etc., la communauté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les adolescents reconstruisent des espèces d'artefacts de ce sentiment d'appartenance et de cercle qui donne le sentiment d'exister via Facebook, par exemple. Et c'est intéressant de voir parfois ce qu'ils y font sur Facebook. Alors au début, on aurait pu se dire ben, ça va être une manière de se mettre en valeur, de se faire un petit peu mousser, etc. Et en fait, pas du tout. Ce qu'ils y racontent, c'est le plus banal de leur existence. Alors là, ce matin, j'ai raté les cours. Bon, là, maintenant, je regarde la télé. Ah, j'adore cette série. Ah, aujourd'hui, je fais un gâteau, etc. Le plus banal, mais comme s'ils avaient besoin, parce que c'est peut-être un besoin fondamental de l'humain, que ça existe pour les autres. Et que si je fais un gâteau, vu que j'ai plus cette communauté d'antan autour de moi, où tout le monde sait que je suis en train de faire un gâteau, bah, j'ai besoin que tous mes amis sachent que je fais un gâteau. Et à mon avis, cette quête de sentiment d'exister aux yeux des autres, Internet, on est vraiment, pour les jeunes, l'un des vecteurs principaux. Jusque d'ailleurs, dans ces questions un peu d'autodestruction, d'humiliation, de masochisme, si on regarde par exemple les vidéos des adolescents et des jeunes sur Facebook, il y a une proportion assez grande qui ne sont pas des vidéos où les adolescents se mettent en valeur, montrent ce qu'ils ont de meilleur, moi je sais bien chanter, moi je sais bien faire ci, je sais bien... Non, c'est pas du tout ça. Pour beaucoup, c'est des vidéos dans lesquelles ils sont humiliés, où ils sont présentés dans ce qu'ils ont de plus banal ou de plus risible ou de plus ordinaire. Où il y a ces questions, là c'est un peu transversal, mais toutes ces jeunes filles qui se dénudent sur Internet, c'est pas l'idéal du féminisme ou de l'accessibilité à une identité de femme moderne que de montrer qu'on a des seins et des fesses sur Internet. Mais à mon avis, il se joue là-dessous des questions plus importantes que l'épanouissement personnel ou la valorisation personnelle ou la liberté personnelle. C'est d'abord exister pour les autres. Et s'il faut se faire humilier, c'est faisable aussi. Si ça me permet d'exister pour les autres, c'est faisable. Et c'est d'ailleurs un filon qui est repris même dans des émissions de télévision. La télé-réalité, les émissions de télé-crochet, etc., ça repose quand même souvent là-dessus, sur l'humiliation de gens qui sont prêts à s'humilier, et qu'ils le savent, et ils le savent très bien, qu'ils sont en train de se faire humilier. Mais par contre, ils sont connus, ils sont reconnus, ils existent aux yeux des autres, et ils ont ce quart d'heure de célébrité dont parlait Warhol. Mais quelle célébrité ! Quelle célébrité ! Mais là encore, c'est une façon d'exister auprès de la communauté dont tu parlais, les amis Facebook, les internautes, les téléspectateurs d'émissions de télé-réalité. C'est un petit peu vague, mais est-ce que c'est pas une entité un peu abstraite qui remplace l'entité abstraite d'antan de la communauté, le village, mon ethnie, mon groupe professionnel, ma religion?
Tu veux réagir?
Oui, vous vouliez intervenir, non? Oui, non, je crois que c'est très juste. C'est ça la valeur qu'on veut bien lui accorder. C'est-à-dire le propre, quand même, de justement la conscience réflexive humaine, c'est qu'elle est créatrice de valeur. Là aussi, Damasio dit une chose qui est intéressante. Il dit que, c'est assez formidable, la valeur, même comme l'esprit pour lui vient des sensations. Des sensations, bon, c'est ça qui va construire, mais le vivant a une valeur biologique. C'est-à-dire que ce qui. La valeur est au cœur du vivant parce qu'il y a une intentionnalité du vivant. Alors pour quelle raison ? On n'en sait rien. Et le vivant est intentionnel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une cellule vivante, elle est organisée pour capter ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. C'est-à-dire que c'est la valeur basique.
chimique, bon, à partir d'elle. Mais elle est organisée pour. Elle ne va pouvoir se développer que grâce à la valeur. Je prends ce qui est bon, avec, j'élimine ce qui est mal. Avec de temps en temps des erreurs, mais qui généralement se payent cher. Donc là, il y a un développement constant. Et je crois que la conscience réflexive va renforcer en effet cela, en nous donnant en plus une possibilité de choix un peu plus grande que des choix purement chimiques, ce qui est bon, c'est ce qui me fait pas mal, ce qui me donne du plaisir, hein, un peu plus grande que les instincts, je satisfais ma faim, ou l'homme peut se priver de réaliser ses instincts, mais est-ce qu'il n'est pas structurellement dépendant d'un miroir et qui va lui dire, vous le voulez bien, oui, est-ce qu'on t'a bien compris, les publicitaires, hein, vous le voulez bien, madame, alors si je le vaux bien, oui, oui. Non, ouais. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Sauf que c'était les valeurs groupales, massives. Maintenant, c'est beaucoup plus laissé au choix de l'individu. C'est une chance, c'est un risque. Qu'est-ce qui fait que je compte ? Alors, si tout d'un coup, on dit la valeur, ce n'est pas l'opinion publique, ou ce n'est pas Dieu, ou c'est pas, mais c'est ces 300 ou même un millier de regards imaginaires dans Facebook. Je me suis montré à eux, on s'intitule les amis, on communique. Si j'y crois, ça a une portée mobilisatrice. C'est-à-dire que ça va me permettre de me réveiller sans me sentir seul. Il faut que j'aille voir Facebook, il faut que je me présente. Tiens, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. C'est là que ça va motiver, la motivation. Mais par contre, si rien n'a vraiment de valeur... Mais dire que tout est mauvais, c'est déjà une valeur aussi. Mais si rien ne nous motive, alors on voit bien que là, c'est profondément délétère, qu'on ne peut pas rester. Il y a une attaque du vivant dans le fait qu'il y a un risque de destruction si rien ne nous motive. Donc on va être dépendant. Mais alors, il faut s'attendre à ce que le contenu des valeurs, ce qui va faire miroir, bien, avec les progrès de la communication actuelle, on va exploser. Non. Pour le meilleur, peut-être, comme toujours, et probablement aussi pour le pire. C'est-à-dire qu'il y aura bien quand même un autre niveau, là encore, on parle d'un niveau réflexif social, de dire quelles sont les valeurs qu'on admet, quand même, quelles sont celles qui nous paraissent dangereuses pour la vie. Sinon, il y a un risque de choses. Mais c'est très difficile avant de prévoir quels vont être les effets et quel mode de régulation on va trouver face à ces effets libérés par tout cela. Enfin, il faut se rappeler que quand l'imprimé a été découvert, il y a quand même eu un vent de panique. Bon, en disant, si tout le monde se met à lire, ça va mal tourner. Remarquez, ça n'a pas toujours tourné très bien. Mais enfin, ça a aussi amené pas mal d'avantages. Alors, quel va être l'équilibre ? On n'en sait rien. Et surtout, il est à faire. Alors c'est quand même ça le côté optimiste, et tu termines là-dessus, j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire, quand même parce que je pense que c'est fondamentalement optimiste, c'est-à-dire, les choses elles seront ce qu'on les fait, sauf qu'on n'a pas tout pouvoir, on n'a pas une emprise totale et qu'on est nombreux, et qu'il faut arriver à une entente minimale, mais elles seront ce qu'on le fera. Et il n'y a pas une fatalité, et ça aussi c'est très important pour les patients. Il n'y a aucune fatalité à aller mal, et en plus, c'est même pas ce que vous voulez. Alors, je crois que c'est là, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est à une ère, maintenant, où il n'y a plus le principe d'autorité. Écoutez, c'est nous qui savons, vous écoutez, vous prenez le traitement et fermez votre gueule. Bon, c'est fini, tant mieux, mais ça devient compliqué aussi, plus compliqué. Et que maintenant, je pense qu'on peut remplacer ça par une métacommunication qui joue sur cette activité réflexive. C'est quelqu'un que Fonagy utilise beaucoup aussi, ça, dans les thérapies réflexives. Et je crois de plus en plus, c'est pas l'interprétation, c'est essayer de vous libérer par une réflexion sur, et pouvoir dire devant quelqu'un qui vient vous trouver avec un trouble, voilà comment je comprends votre problème. Et voilà pourquoi, moi, ce que je vous propose. Voilà comment, moi, je vois les choses. On va de plus en plus amené, non pas dire, qu'il va falloir nous situer, et probablement à un niveau qui dépasse la seule symptomatologie, mais surtout dans le domaine psy, enfin, qui engage justement ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu mettais, c'est-à-dire la relation à l'autre et ce fait fondamental que c'est pas juste
que pour exister, on est à se faire du mal. Voilà. On n'a pas à être son propre bourreau pour exister, surtout dans une société comme la nôtre, qui a au moins l'avantage, c'est qu'on peut quand même parler. Bon. Et on voit que malgré ça, ces comportements, et au fond, toute la psychiatrie a une dimension destructrice. C'est ça. Tous les troubles psychiatriques, ce qui en fait leur côté leur trouble, c'est qu'ils nous amputent d'une partie de nos potentialités sur un certain nombre de domaines, tous. Bon. Et sans qu'on l'ait voulu, mais avec, au fond, un effet autothérapique, un effet plutôt anesthésique, je dirais, plutôt anesthésique qui calme, mais qui nous abîme. Et que ça, c'est pas juste, parce qu'on ne se rend pas compte de cette dimension. Donc c'est là où, justement, le regard d'autrui est important, et ce regard d'autrui doit être informé, il doit avoir une éthique, on ne peut pas y échapper. On peut dire après tout, bon, ben, vous fonctionnez dans une autodestruction, c'est votre problème, vous voulez changer. Alors, quelquefois, ça fait bouger d'ailleurs, parce qu'une personne s'intéresse, alors comment, c'est pas normal, je vais plus. Mais le plus souvent, oui, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de se battre pour que quelqu'un ne s'abîme pas? Ben, ça, il faut faire un pari sur la vie. Enfin, c'est une question de. C'est parce que les gens sont quand même plutôt mieux quand ils vont bien que quand ils vont mal. Mais eux, ils ne le savent plus quand ils vont mal. Ils ont l'impression que s'ils cessent d'aller mal, il n'y a ou plus rien, ou ils sont complètement. Enfin, c'est le gouffre, comme tu en parles dans les cas. Tu dis la peur de devenir fou, la peur une espèce de panique. Ça, au moins, j'ai l'illusion de maîtriser mon trouble. Bon. À des niveaux très simples. Bon, si on a ces petites manies de fermer la clé là, trois fois, la serrure, c'est complètement idiot. On sait qu'une fois, ça suffit. Et les jours où on ne le fait pas, mince, je n'ai pas laissé ma porte ouverte. Alors on passe un après-midi à se poser ça, le lendemain on fait trois tours, c'est pas. Alors si c'est trois tours, c'est pas un problème, et si on passe la matinée à quatre pattes à fermer sa serrure, c'est ça la psychiatrie. Et que tout d'un coup il y a quelque chose qui devient envahissant, qu'on n'a pas choisi et qui nous abîme. Donc il ne faudrait pas assez de la romantisation de la psychiatrie. C'est pas des maladies. Et ça survient toujours chez des gens qui sont sensibles, hein. C'est pas justement et parce qu'ils sont déçus. Parce qu'il y a la peur. Et aller mal, c'est toujours la peur et la solitude, quand même. Voilà. C'est ça qui fait. Et puis quand on va mal, on se cramponne à ce qu'on peut. Et en général, c'est destructeur et ça nous enferme, ce qui aggrave les choses. Dès qu'on va bien, dès qu'on va mal, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on peut le décrire partout, comme on a pu faire des nosologies, parce que c'est toujours pareil d'aller mal. Tandis qu'aller bien, on a 36 000 façons d'aller bien. Ouais. C'est indéfini d'aller bien. Et si vous êtes mal, si vous avez peur, vous vous sentez seul, et vous vous recomprimez sur ce que vous pouvez, vos pensées, vos maladies, vos machins. Voilà. Alors ça, je crois que cette vision, ta fin là-dessus, sur le rôle d'autrui, oui, c'est-à-dire que la conception qu'on a, nous, de la signification du trouble, va orienter notre attitude. Et oui, effectivement, on a pu voir, ce groupe d'ados, des parents qui ont laissé mourir leur enfant. Pas parce qu'ils avaient une option mort, parce qu'ils n'avaient même plus envie de vivre, parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils puissent un jour vivre bien. Bon, sans tout ce connu. Et un inconnu qui, bon, il faut 10 ans de bagarre, quelquefois. Mais 10 ans, pour dire tout d'un coup, c'est passé. Et le plaisir. À ce moment-là, c'est la récompense, le plaisir qu'on a, comme un enfant qui ne travaille pas et qui se met à avoir des bonnes notes, regardez son sourire. Ah, j'ai eu. Il n'y en a pas un, quand il a une bonne note, qui ne soit pas content. On peut dire, il n'y a rien à foutre, ça te fait chier. Voilà. C'est pas vrai que ça n'a rien à foutre. Personne n'a ta. Ouais. Là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je dis ta conclusion, me paraît. Oui, c'est dans la relation à autrui qu'on se construit. Quoi. Et c'est à nous de donner des valeurs qui peuvent être des valeurs un peu, qui ne sont pas obligées d'être toujours les mêmes, mais en particulier des valeurs au fond d'une solidarité du vivant et qu'on n'a pas à être son propre bourreau pour dire qu'on ne va pas bien. Il doit y avoir d'autres façons. Il y a d'autres façons. Là, on en est sûr. Et ça, c'est où l'expérience peut jouer. Quand on débute, on est sûr qu'en effet, il n'y a aucune fatalité à aller mal.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est d'ouvrir des pistes pour inventer, réinventer nos attitudes de thérapeute ou les cadres thérapeutiques par rapport à ces patients, ces nouveaux patients, et de combien ça ne peut plus être les mêmes références qu'à la fin du 19e siècle. où le génie de la psychanalyse, c'est de prendre le contre-pied. Alors évidemment, dans une société coercitive, moralisante, etc., de la fin du 19e, où tout le monde dans votre entourage vous disait ce que vous deviez faire, où tout le monde donnait son avis, tout le monde avait une morale, etc. Évidemment, se retrouver avec un psychanalyste qui vous disait « Parlez de ce que vous voulez, je n'orienterai pas notre entretien, et si vous voulez plus revenir, vous venez plus, si, etc., à la demande, etc. » C'était un espace de liberté et d'autonomisation extraordinaire. Mais dans une société qui est libérale et autonomisante, les souffrances sont inverses. Et parfois, c'est très schématique ce que je dis, bien sûr, mais j'ai l'impression que parfois, les psychothérapeutes doivent prendre de nouveau le contre-pied et proposer autre chose que ces espaces de liberté, soi-disant, de « je serai neutre, je vais vous laisser ne pas revenir », etc., qui souvent, en fait, redouble la souffrance. On en rajoute une couche. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que chez certains patients, c'est vraiment la fin le fond du trou, parce qu'ils se disent, notamment les dépressifs, « Allez, j'ai pris sur moi, j'ai fait un effort pas possible pour finir par aller voir quelqu'un alors que j'y crois pas trop. » Et puis cette personne me dit « Vous reviendrez si vous voulez. Bref, il tient pas à moi. » On considère pas que ça soit important. Cette personne ne m'aidera pas à donner sens à cette thérapie auquel j'ai du mal à donner sens, puisque du fait de ma dépression, j'ai du mal à croire en autrui et à croire en l'aide d'autrui. Et ces questions de solitude qui traversent, à mon avis, une bonne partie de la psychopathologie contemporaine va nous amener à repenser nos cadres et nos pratiques et nos attitudes thérapeutiques.
Absolument. Et alors, le problème, c'est jusqu'où va cette pression ? On n'est plus, en effet, attendez la demande. Quand on peut faire une demande, c'est qu'on ne va pas trop mal. Ça veut dire qu'on a envie de prendre soin de soi. Le problème, c'est qu'un certain nombre ne peuvent plus avoir envie de prendre soin de soi, parce que la seule façon de se soigner, c'est d'être dans l'état où ils sont. C'est le seul truc qui leur semble les tenir. Bon. Donc là, jusqu'où on va, jusqu'à forcer, tu comprends ? Et là, il faut savoir pourquoi on le fait. On est peut-être vite dans l'abus. C'est tout le problème qui vient de se poser aussi, enfin, disons-le, avec... on en a parlé publiquement, ça avait été public, mais enfin, la mort aussi de cette jeune anorexique la semaine dernière, il y a 15 jours. Bon, elle ne voulait pas mourir. Elle a fait des campagnes contre l'anorexie. Elle aidait les autres. Sauf que parce qu'elle avait repris le théâtre, qu'elle avait été motivée, ce qui était important, mais elle n'a pas jugé suffisamment important de donner les moyens qu'elle reprenne assez vite un poids normal. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est qu'on peut se sentir un peu mieux, on peut se sentir bien, on peut reprendre motivation, mais abandonner son symptôme, comme nous, abandonner nos petites phobies qui ne sont pas bien graves, les araignées, les rats, ou les vertiges, ou nos petits tocs, bon, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et remanger dans ces cas-là, et c'est là, est-ce que c'est le sens qui joue, ou est-ce que c'est beaucoup plus l'état émotionnel, c'est-à-dire la peur ? Ben, je pense que ça, c'est la peur, et que ça n'a plus, le sens ne suffit pas. Alors le sens, après, secondairement, nous aidera à dire, ah ben oui, je reprends confiance, je comprends pourquoi j'ai fait ça, mais ça ne me dit pas pourquoi, à un moment donné, de me sentir non en confiance a fait que mes angoisses, enfin mes peurs, ont pris cette dimension d'une anorexie, ou de TOC, ou d'une crise de panique, ou de... Ouais. Là, il y a quelque chose qui déborde le sens, et dans ce cas, on doit dire, attends, là, ce n'est plus possible. Et cette fille aurait retrouvé un poids normal, elle aurait pu refonctionner au niveau de ses anticorps, elle ne serait pas morte comme c'est une des complications possibles, la première infection venue, parce que son organisme était épuisé, alors qu'elle ne voulait pas mourir, et qu'elle avait 35 ans. Bon, seulement, voilà, à cet âge-là, dire, mais si vous allez reprendre, vous n'y arrivez pas par vous-même, au besoin, on va vous mettre une sonde, au besoin, on va... Ah, mais de quel droit ? Jusqu'où va la liberté de l'individu ? Ça dépend de la conception qu'on a. Et là, l'expérience, quand même, montre que, quand même, tu dis, même après 10 ans et 30 hospitalisations, mais oui, une femme qui est une collègue, d'ailleurs médecin, qui m'a dit,
je ne suis plus anorexique, je ne comprends pas comment on peut l'être, je le voudrais, je ne le pourrais plus, c'est vrai. Essayez d'être anorexique, vous n'y arriverez pas. Aucun trouble psychiatrique, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez lutter pendant quelques jours, quelques heures, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas tenir comme ça. Et elle n'a plus été. Elle a deux filles qui sont des adolescentes, qui ont à peu près le même âge que moi, alors elle a exercé comme médecin. Voilà. Et à l'époque, parce que j'étais jeune et j'étais très pris dans ma formation, j'étais très agacé que l'endocrinologue qu'elle voyait l'hospitalise à chaque fois qu'elle maigrissait. Alors 30 fois, je trouvais qu'il avait qu'à me laisser faire, moi, avec la psychothérapie, il avait raison. Parce qu'elle ne s'est pas chronicisée. Même au bout de 10 ans, elle n'était pas chronique, parce qu'elle reprenait du poids, etc. Puis elle reperdait, mais reprenait et vivait. Ceux qui se sont installés plusieurs années sans bouger dans un bois fixé pour les faire changer. Tout est possible, mais c'est très, 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 très dur, parce qu'on est pris dans une habitude et une contrainte. Je crois que c'est justement vous, cette jeune génération, vous arrivez après tout cela. Alors il y a des choses, enfin c'est l'expérience, il y a eu des choses très importantes, comme tu l'as dit, cette ouverture, il faut garder cette recherche du sens, mais le remettre à sa juste place. C'est pas, l'un n'exclut pas l'autre, mais il n'y a pas une vue aussi totalitaire qu'autrefois sur si vous comprenez, vous irez bien. Mais non, c'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de confiance. Allez bien, c'est pas pareil. Alors, quelquefois, comprendre nous aide à reprendre confiance. Mais s'il n'y a pas la confiance, qui est un phénomène émotionnel, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance? Ce n'est pas par pure raison. Parce que, voilà, on voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et ça nous aide à la remplir. Bon, sans ignorer le reste. Et cette confiance, c'est ce problème du narcissisme, c'est le problème de la sécurité interne, c'est l'estime de soi, c'est tout. C'est ce mystère qui font que. Et c'est la relation. Qui font qu'en effet, oui, il y a tout d'un coup, quand on nous voit tenir, et quand on voit les autres avoir, non pas la volonté d'être le plus fort, mais dire oui, ça en vaut la peine, je crois qu'il y a quelque chose qui finit par se transmettre. Enfin, je pense que les patients qui ont pu reprendre, c'est parce qu'ils sentaient que oui, on en a envie. On ne peut pas non plus avoir envie de quelque chose, notamment d'aller mieux, si personne autour de nous n'en a envie. Sauf si on a un esprit de contradiction assez fort et que ça nous motive. Bon. Mais ça se co-construit, ça. C'est ça que tu dis dans tout ton livre. Il y a une co-construction, je le disais aussi, il y a une co-construction de la vie. Et là, notre regard, oui, ça nous vaut bien. Et c'est ce qu'on peut montrer à nos enfants. Ils peuvent s'intéresser. C'est une chance qu'ils aient Internet, qu'ils aient Facebook. Mais parce que c'est une chance, c'est un risque. À la mesure de cette chance, il ne faut pas les diaboliser. Et au contraire, mais leur dire, attends. Comme tout, il faut apprendre à s'en servir. C'est une chance d'avoir une voiture, on peut se casser la gueule avec. Bon, il faut apprendre à s'en servir. Et il faut surtout que tu dis, toi, tu vaux la peine de te préserver. Tu n'as pas à te mettre en danger pour exister, pour courir. Et voilà. Ça, c'est dans le regard que ça se transmet, cette confiance. C'est pas uniquement par les préceptes, c'est parce que... Voilà. Et je trouve que ce livre est plein de... Enfin, plein de confiance, et je pense que c'est pour ça que moi, je souhaite que tu, à partir de cette expérience, tu continues à explorer cette filière, ce fil rouge que tu as eu autour de la solitude. Prends-le comme thématique, parce que je crois que ça nous conduit au cœur du drame humain, la solitude.
Voilà. C'est ça.
Et qu'il faut retrouver un vocabulaire qui touche. Parce que quand on va dire quand on est votre objet interne, quand on est l'objet externe, et en raison de la... Bon, si on lui parle de... Ah oui, c'est pour ça qu'il faut retrouver une phénoménologie. On va dire peut-être la même chose au travers de la solitude. Seulement, ça ne va pas avoir le même impact. Et même pour nous, parce qu'on finit par se gélifier aussi par notre vocabulaire. Là aussi, on se rend pris. Il faut pouvoir retrouver, quand on s'adresse, des mots qui soient porteurs de sensations. Parce que c'est l'alliance du sens et de la sensation qui fait le vivant, et plus spécifiquement l'être humain. Mais il faut les deux. Et dans ton livre, on trouve les deux.
Et, ça, c'est et dans ça votre chouette. Dialogue, à tous les deux, on sent cette humanité-là. Et je crois que c'est très porteur. Je propose de poursuivre ces échanges de façon plus informelle dans ce temple de la lecture et de la littérature. Et bravo vraiment, et merci mille fois à tous les deux. Merci à vous.